fois à leur fin de carrière à cause justement de cette attention-là. Là, quand on parle mm-hmm. d'un joueur comme Piqué Subban, lui, c'est un joueur qui avait beaucoup besoin d'attention.
Très médiatisé, très suivi sur les réseaux sociaux.
Il y en a d'autres qui sont plus. Plus personnel un petit peu.
Mais c'est sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, les gens vont oublier Piqué. À moins qu'il soit capable de se renouveler.
Oui, ouais. Ben là, je pense qu'il fait de la télévision. Là. Fait que ça fait partie de sa personnalité.
Mais tu sais, hier, là, j'écoutais la game Canada contre la Tchéquie. Tu sais, celui qui a marqué le but vainqueur, là, il était bien relax dans son faciès. Puis là, Joshua Roy est arrivé, puis il a sauté d'un bras.
C'est ça.
C'est comme s'il était pas trop conscient de ce qui venait d'arriver.
Ou, dans le fond, il s'attendait peut-être à scorer. Là, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus expressifs que d'autres.
Ouais.
Mais c'est un feeling que tu rencontreras. C'est dur d'expliquer quand tu ne l'as pas vécu. Puis quand tu l'as vécu par la suite, ben là, c'est sûr que c'est pas la vie normale des gens normaux, dans le fond.
Ouais.
C'est comme un boxeur aussi, les autres sports que... C'est assez spécial.
Mais tu sais, les gens dans les estrades qui crient, tu sais, puis moi, à plus petite échelle, il y a de ça quelques semaines, j'allais faire la mise au jour au Rempart, il y avait peut-être 10 000 personnes, puis je me suis dit, tu sais, je vais essayer de voir la vue d'un joueur de hockey quand il embarque sa glace. Tu sais, j'étais rempli de bonne volonté, là, mais finalement, quand j'étais embarqué sa glace, j'étais tellement nerveux, je me disais juste, faut pas que je tombe sur le tapis rouge. Je me souviens de rien, si ce n'est que quand je me suis reviré, je voulais voir où était Patrick Roy. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu le cousin de la mère de mes gars qui était là, qui m'a dit salut, qui est un joueur de hockey chez les Remparts. Mais sinon, je me souviens pas de la foule, je me souviens pas de la grosseur de l'amphithéâtre, je me souviens pas de ça. Puis Colin, que j'aurais aimé ça, figer ces moments-là, tu sais, quand il me présente, là, j'aurais aimé ça, figer ça, ces moments-là, dans ma tête.
Quand les premiers temps, tu le vis, c'est normal que c'est comme n'importe quoi là, dans le premier. À un moment donné, ça devient normal parce que ça devient une habitude.
Ouais.
Mais quand tu joues les finales, surtout là, comme dans ma carrière, j'ai eu la chance de jouer plusieurs finales. Là, puis une coupe qu'on a gagnée justement aussi dans la Ligue américaine. Puis là, l'énergie, là, c'est complètement différent. Tu sais, j'en parle, là, j'ai la chair de poule parce que c'est une affaire de... C'est ça. C'est dur à décrire.
Puis, t'as-tu encore des images de toi qui jouait des matchs et tout ça? Ça, je veux dire, ça vaut de l'or, ça. Tu veux pas que ça disparaisse. Là.
Quand on a gagné la coupe, c'est bizarrement la photo qu'ils ont pris avec le gars qui levait la coupe dans le journal, sa première page, c'était à moi.
C'était toi?
Wow. Puis là, on l'a fait encadrer. Je l'ai dans ma salle chez nous là, de sport, là, disons. Là. Puis c'est une belle photo. Puis les enfants regardent ça. Puis...
Quand les gens te reconnaissent, ça t'agace-tu un peu?
Non. C'est sûr que je n'ai pas une grosse carrière une personne comme Simon Gagné, Al Brashear. Mais les gens qui connaissent le hockey, éventuellement, nous connaissent, là, moi et mon frère. Mais non, ça ne me dérange pas.
Parce que la grandeur que tu as, c'est sûr que de un, les gens te regardent parce que tu es très grand.
Ouais,
après ça, ils vont « Ah, c'est Gaétan Royer. »
Oui, puis j'ai l'aspect de joueur de hockey aussi. Là, j'ai la carrure d'un joueur de hockey. C'est arrivé une fois, ce qui était surprenant, c'est qu'on est allé jouer au golf en Arizona. Puis en revenant, on était à Chicago. Puis il y avait des gens qui m'ont reconnu.
Hein?
Parce qu'eux autres, ils venaient de Springfield au Massachusetts. Okay. Où j'ai joué, puis ils m'avaient reconnu. Ils disaient, on se souvient, on t'avait vu jouer là, les deux années que j'étais là. Fait que ça, c'était surprenant parce que tu t'attendais pas à ça. Mais ça arrive quelques fois, mais c'est sûr qu'avec les années, là, on se fait dépasser par les jeunes.
Ah ouais.
On est moins populaire, puis la popularité est assez... Elle s'est en allée vers.
Tu sais, puis le hockey qui s'est tellement amélioré. Tu sais, des fois, il y a des gens qui font l'erreur de dire ah, ben, tu sais, c'est qui le meilleur joueur de hockey entre Alexander Ovechkin et Wayne Gretzky? On ne peut pas faire ces comparaisons-là parce que l'équipement que Wayne Gretzky avait à cette époque-là, puis les techniques d'entraînement, techniques de jeu, c'était pas pendant toute la même affaire. Puis ça enlève à rien Alexander Ovechkin, qui est tout un joueur de hockey. Là. Moi, c'est le joueur le plus exceptionnel que j'ai vu dans ma vie, bien que j'ai beaucoup aimé Mario Lemieux. Pas le même style de joueur, tu vas me dire, effectivement. Mais tu sais, Alexander Ovechkin va réaliser des prouesses, mais quand on fait la comparaison entre les joueurs d'aujourd'hui puis les joueurs des années 80-90, parce que ça n'a aucune commune mesure. Tu sais, un gars comme McDavid qui a développé pratiquement sa propre façon de patiner, je veux dire, on n'en avait pas des individus comme ça dans le temps.
Non, c'est ça. Puis là, lui, on le voit, là, présentement, sur sa génération, il est supérieur.
Oui, clairement.
Actuellement, là, les jeunes, ils regardent ça, puis ils amènent... Cette, les techniques d'entraînement sont plus pareilles. C'est comme mon père, je pense peut-être, dans ce temps-là, et quand qu'eux autres, j'entendais Guy Lafleur qui disait « Je me suis entraîné cet été, j'ai joué un peu au tennis, un peu de course à pied, puis j'ai joué au golf. » C'est pas de l'entraînement. C'est les gars, je pense, c'est quasiment 8 heures par jour. Là, ils ont différentes cédules d'entraînement.
Mais à l'époque de Guy Lafleur, les gars arrivaient out of shape au camp d'entraînement.
Le camp d'entraînement, c'était pour s'entraîner.
Et voilà.
À cette heure, si t'arrives pas en shape au camp d'entraînement, tu te le fais dire.
Puis tu te le fais dire. Puis des fois, tu payes parce que t'es pas en shape. Tu payes les conséquences.
Puis justement, la game est tellement rapide que si, mettons, juste pendant une semaine, une personne durant l'année va négliger peut-être son alimentation. Ça,
ouais.
Il va le souffrir. Puis c'est la fraction de seconde à cette heure là, qui ça compte vraiment.
Oh.
Les gars, c'est des machines, là, présentement.
On aime ça, le hockey. Mais on parlera pas de hockey pendant 60 minutes parce que là, tu es venu ici parce que toi, depuis quelques années, en fait, depuis plusieurs années, les finances sont entrées dans ta vie. Tu as décidé de faire de l'investissement. Puis par la suite, tu as décidé de partir ton entreprise Cobalt Investissement. Parle-moi un peu de cette entreprise-là. Elle a quel âge, Cobalt Investissement?
Cobalt Investissement, ben, j'ai commencé, on a ouvert la compagnie en 2004.
Ouais.
Puis moi, je fais de l'investissement dans le fond. Ça a toujours été comme une passion pour moi. Là. Le début, ceux qui connaissent mon histoire un petit peu, c'est que mes parents, quand ils ont commencé à investir en bourse, ils ont découvert le marché boursier, c'était en 87. C'était justement en mois d'octobre 87, la veille du crash.
Ouais. Ils regardaient les codes dans le journal.
Puis là, c'était dans le journal. C'est sûr que ça ne bougeait pas aussi vite qu'aujourd'hui, là, l'information. Puis moi, ben, à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que là, mon père il a commencé à me le montrer, dans le fond, le pourquoi que c'était intéressant d'investir, puis le fonctionnement de l'argent. Puis ça m'a toujours intéressé. Puis là, j'allais dans les meetings avec les conseillers financiers. Puis à un certain moment donné, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu l'âge justement d'ouvrir un compte de courtage, dans le fond, de commencer à investir à 18 ans. Mais là, j'ai fait un placement d'argent dans un fonds mutuel avec un conseiller financier.
OK.
Puis en 2003-2004, j'ai commencé à... Mon père, à un moment donné, il y avait un de ses collègues de travail qui faisait de l'analyse technique un petit peu, là, comme on fait aujourd'hui, mais avec des sites web sur ce qu'on avait à l'époque, le Webfin, je me souviens. Puis là, il m'avait montré là, justement une des moyennes mobiles, un des indicateurs qu'on regarde là, de momentum sur les mouvements de prix.
Ouais.
Ça m'a vraiment intéressé tout de suite là, quand j'ai vu ça. Là. Je comprenais, puis j'ai développé un intérêt. Puis pendant que justement, je jouais au hockey, puis je travaillais en même temps, mais je regardais, là, puis j'ai investi, j'ai commencé à faire mes propres investissements moi-même. Puis à un certain moment donné, bien, là, j'ai développé, tu sais, en lisant des livres. Éventuellement, la technologie a augmenté aussi beaucoup. Là, dans cette... Quand moi, j'ai commencé, là, c'était à 50 $ à faire une transaction boursière.
Et
à cette heure, c'est gratuit. Là,
c'est ça.
Fait qu'il y a beaucoup de choses que les logiciels ont augmenté.
Mais 50$, il fallait que tu sois sûr de ta shot. Là. Puis en même temps, ouais. 50$, tu dis, ben, je vais investir pour longtemps.
C'est ça. Habituellement, ben, c'est quand tu as des plus petits montants, tu sais, habituellement, quand les gens commencent, c'est pas tout le monde qui a des millions à placer. Là. Fait que, c'est à 50$ acheter puis 50$ vendre, mais là, il faut que tu fasses au moins 100$ de profit pour arriver even.
Ouais.
Souvent, les trades, puis ça bougeait moins vite aussi. C'est normal. L'information bougeait moins rapidement.
Mais quand tu me parlais de ton père tantôt qui regardait, ton père et ta mère qui regardaient les cotes dans le journal. C'était quoi leur méthode d'analyse à cette époque-là versus l'époque aujourd'hui où on a plusieurs méthodes d'analyse?
Bien, il y a toujours eu le fondamental puis les cotes boursières.
Ouais.
Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est de savoir la valeur de l'entreprise. Là, à l'interne, les actifs comparés aux passifs, les bâtisses que, mettons, une entreprise va avoir, le réseau de transport qu'il va y avoir, peu importe. Tu essaies de trouver la valeur intrinsèque de la compagnie puis où est-ce que ça peut s'en aller, justement, avec les bénéfices. Ensuite, l'analyse technique qui fait que là, on regarde les mouvements de prix, on essaie de regarder où est-ce que le momentum est. Fait que des fois, ce qui arrive, c'est que le prix à la bourse va être trop élevé par rapport à la valeur du titre. Des fois, ça va être le contraire. Ça veut dire que la valeur boursière va être inférieure à ce que la compagnie vaut réellement. Puis là, c'est là que tu vois qu'il y a des opportunités à savoir si ton titre est moins cher ou trop cher. Puis là, on est capable de voir le momentum. Fait qu'il y a beaucoup d'analyses techniques, là. Il y a beaucoup de calculs, d'algorithmes mathématiques qui se sont développés avec le temps. Puis, dans le temps, bien, là, vu que les ordinateurs n'étaient pas présents, Ben là, dans le fond, on prenait les codes boursières. Il y en a qui faisaient des graphiques avec des points sur un papier. Tu pouvais les trouver. Tu avais les codes boursières dans le journal où est-ce que tu pouvais regarder les titres. Mais c'est sûr que là, ça a beaucoup évolué. Puis l'information avec l'Internet, ce que ça a fait, c'est que là, quelqu'un justement qui a l'Internet puis un ordinateur ou un téléphone est capable d'avoir justement tous ces codes-là qui rentrent en temps réel sur son téléphone puis de faire les transactions rapidement.
OK. Fait que il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 60, 70, 80.
Puis pour le bien et pour différentes raisons aussi, parce qu'il y a beaucoup de plus de... Je dirais il y a beaucoup peut-être plus de spéculation qui se passe à cause du fait que monsieur et madame tout le monde, là, présentement, on est capable de gérer notre propre argent. Avant, c'était beaucoup les institutions financières. Comme mon père, quand il faisait ses transactions, passait par le courtier. Puis à ce là, avec les courtiers escomptes, ce qu'on fait, c'est que nous, on les fait nous-mêmes. Fait que le retail trader, qu'il appelle, là, c'est les personnes comme vous et moi, là. C'est que là, on peut faire nos propres analyses, on peut faire nos propres investissements, puis sur un clic de bouton, on peut rentrer puis sortir dans un titre.
OK. C'est quoi la différence entre ce qu'on peut appeler l'investissement en bourse puis le trading spéculatif?
C'est quand une personne, quand il veut commencer, mettons, à investir ou à se lancer en bourse ou dans les produits financiers,
ouais.
Faut qu'il détermine son profil, à savoir si lui a-tu un travail. Tu sais, une personne, mettons, qui va faire de l'investissement, peut-être va avoir un travail ou une business. Puis là, ce qu'il va faire, c'est que les profits du travail ou de la business ou les économies vont être placés dans des entreprises à long terme.
Mm-hmm.
Fait que là, le choix des entreprises va être basé sur une qualité d'entreprise. On essaie de regarder, voir, parce que tu payes, dans le fond, pour avoir le bénéfice d'une entreprise. Quand on achète des actions à la bourse, c'est que tu achètes des parts d'une entreprise, donc on devient propriétaire. Ça, c'est la mentalité d'un investisseur. Donc, si je te disais demain matin que c'est toi qui es le propriétaire de Costco, puis que tu participes aux bénéfices de Costco, les gens seraient contents de savoir ça.
Ouais.
Donc, en achetant des actions de Costco, c'est qu'on participe justement aux bénéfices de Costco. On est propriétaire, mais en partie, parce qu'il y a plusieurs actions en circulation. Puis là, les gens qui ont des parts, eux autres sont dans le fond, c'est un type de propriété de Costco. Fait que ça, c'est le type d'investisseur. Donc, on essaie de choisir des compagnies qui ont une qualité fondamentale, qui ont des bénéfices. Puis là, nous autres, dans le fond, ce qu'on veut faire comme investisseur, c'est qu'on veut payer un certain prix pour avoir ces bénéfices-là. Fait que là, il y a des ratios qu'on peut regarder quand on regarde les titres, dont un que c'est le cours bénéfice, c'est le cours de l'action par rapport au bénéfice. C'est combien tu payes pour avoir ce bénéfice-là. Donc, si, admettons, on dit que le cours bénéfice d'un titre va être à un PE ou un cours bénéfice de 15, un multiple de 15, ça veut dire que pour chaque 15 $ que tu investis dans le business, tu vas recevoir 1 $ de profit sur les bénéfices, dans le fond, de la compagnie durant l'année prochaine. Fait que là, c'est capable de savoir combien tu payes justement pour avoir ces bénéfices-là. Fait que là, si on prend un multiple, mettons, de 10, ça veut dire que tu payes 10 fois les profits. Si tu prends un multiple de 30, bien là, tu payes 30 fois les profits. C'est là que tu es capable d'évaluer à savoir si ça vaut la peine ou non, selon les fluctuations boursières. Les titres sont rendus où à peu près. Tandis que le trading spéculatif, c'est que là, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est comme quelqu'un qui va acheter un bien pour le revendre avec un profit dans un temps peut-être rapproché, une courte période de temps ou moyenne période de temps. Donne un exemple, mettons quelqu'un qui achète un auto, un dealer automobile va acheter un auto usagé, va le revendre à quelqu'un avec un profit rapidement. Fait que ça, c'est considéré comme un peu de la spéculation. Donc, tu achètes des parts de l'entreprise, puis tu essaies de les revendre avec un momentum à quelqu'un qui va les payer plus cher dans une courte période de temps. Fait que là, il y a des fluctuations boursières qui se passent. Fait que dans le marché, tu as les gens qui investissent sur le long terme, tu as des gens qui investissent sur le moyen terme, puis il y en a des gens aussi qui essaient d'aller chercher les mouvements court terme qui se passent selon les nouvelles. Fait que là, on va donner un exemple. Sort une nouvelle sur Tesla, voiture électrique. Disons qu'ils sortent un nouveau modèle, puis là, le titre, ben lui, il y a de l'engouement qui se passe dessus. Puis là, il va se mettre à monter, mettons, sur un cycle haussier pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, parce que les gens, ils en veulent pour investir parce qu'ils pensent que, justement, le titre va monter dû à cette nouvelle-là. Mais là, il y a des gens qui vont l'acheter pour le garder longtemps. Puis il y a des gens aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont profiter du mouvement, ils vont rentrer dans le titre. Puis là, quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines plus tard, vont aller le revendre à une autre personne qui achète.
Ils vont tirer un certain profit de ça.
Pour aller chercher le profit. Puis là, ce qui est intéressant avec le trading actif, c'est que par rapport à l'investissement, c'est qu'on essaie toujours d'avoir une montée du titre. Tu sais, comme, mettons, on prend mes parts de Costco, j'espère que Costco va le plus cher dans le futur. Tandis que dans le trading, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut participer au mouvement aussi en descendant,
mm-hmm.
avec la vente à découvert ou certaines options qu'on peut, des produits financiers qu'on peut qu'on retrouve sur le marché. Donc, on participe au mouvement. Le trading actif, là, ce que c'est d'être du bon côté de la transaction. Fait que si on a un mouvement vers le haut, on se met vers le haut. Puis si on a un mouvement vers le bas, bon, on peut en profiter vers le bas. Mais ce qu'on veut avoir dans le trading actif, c'est du mouvement. Puis ce que tu vas avoir dans l'investissement, c'est des bonnes compagnies avec une rentabilité qui sont stables. Puis là, tu profites justement de
okay.
tu participes, autrement dit, aux bénéfices de la compagnie.
Mais est-ce que tu peux faire de l'argent avec une action qui descend?
Oui, c'est ça. C'est ça que quand on a un momentum, comme là présentement, mettons comme Tesla,
ouais.
dernièrement, c'était un titre qui était surévalué depuis longtemps, depuis les débuts quand il était commencé à être coté à la bourse.
Ouais.
Ben, c'est toujours été un titre qui était surévalué parce qu'il était basé sur les profits plus tard.
C'est ça. C'est pour ça que je l'ai acheté.
C'est ça. Mais là ce qui arrive, c'est que c'est correct parce que s'il y en a beaucoup, des nouvelles technologies comme ça, il va y en avoir beaucoup qui vont se passer. Là, comme la cannabis a été la même affaire.
Ouais.
À un moment donné, ça va trop haut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'habituellement, la vraie valeur de la compagnie, okay, elle a une valeur, puis le prix boursier, à un moment donné, un jour ou l'autre, va finir par refléter la vraie valeur de la compagnie. Fait que là, ce qui se passe avec Tesla, c'est justement, c'est que là, on y a un retrait parce que, bon, peu importe là, les nouvelles avec ce qui se passe avec le CEO, avec Twitter,
avec Elon Musk,
mais le titre, comme je parlais tantôt, les multiples étaient trop élevés. À un certain moment donné, le cours bénéfice, je te parlais tantôt, à 15, là,
mm-hmm.
ben là il était à 1200. Fait que tu payais 1200 $ pour avoir une pièce de profit. Fait que, c'est dur de rentabiliser ça sur une longue période de temps. Fait que là, le titre présentement est en correction. Puis là, pendant qu'il est en correction là-dessus, ben là, il y a des gens qui en profitent avec un phénomène qu'on appelle la vente à découvert ou avec des options. Puis pour expliquer ce que c'est, parce que les gens ont plus, même les gens qui suivent la formation, au départ, quand tu n'es pas habitué à ça, c'est comme un peu, c'est difficile à comprendre.
Ben tu sais, moi-même qui a longuement réfléchi à tout ça, c'est ça, tu sais, j'ai longuement réfléchi. Chaque fois que tu m'en parles, on dirait que c'est comme contre-productif dans ma tête. Peut-être que l'action descend, mais je peux quand même me tirer un certain profit, c'est comme impensable.
Puis je vais essayer de l'expliquer dans le fond, la façon qu'on... C'est sûr que en utilisant un graphique pour les gens quand on fait notre séance d'information, je l'explique en utilisant le graphique, c'est plus visuel, fait que ça se comprend mieux. Mais dans le fond, le principe, c'est que quand on achète une action, on espère qu'elle monte pour faire de l'argent. T'sais, dans le fond, on veut acheter bas puis vendre haut.
Ouais.
C'est toujours le même principe. Valeur comptable, là, c'est la vente moins l'achat qui fait le profit. Fait que tu vends plus cher que tu as acheté. Sur la vente à découvert, ce que c'est le phénomène, c'est le même phénomène, mais on commence à l'inverse. On commence par la vente. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est que dans le marché, tu as besoin toujours d'un acheteur-vendeur. Donc là, quelqu'un qui veut acheter le titre, ça prend un vendeur pour que lui il soit capable d'acquérir les parts. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'ordinateur, bien, avec un compte de courtage qui est construit pour ça, parce que ça prend une autorisation pour ça, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter des actions à l'institution financière. Donc, à peu près comme quand les gens ils mettent de l'argent dans leur compte de banque, l'argent n'est physiquement pas dans leur compte de banque. Fait que là, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'argent dans les comptes des clients, elle va la passer, elle, à d'autres personnes pour aller sur une marge de crédit ou une hypothèque, en sachant très bien que ce n'est pas tout le monde qui va retirer justement l'argent en même temps.
En même temps, c'est ça.
C'est la même affaire avec un compte de courtage, c'est que, disons, la Banque nationale, elle a plein de clients qui ont des actions de Apple, mais qui ne transigent pas. Mettons, tu as acheté des actions d'Apple, ça fait 2 ans que tes os sont dans ton compte.
Ouais.
Fait que là, ce qui va arriver,
c'est. Ça a descendu aussi en passant.
Là, présentement, le marché, il y a de la pression à la baisse un petit peu. Là,
en fait, tout ce que j'ai acheté des derniers mois, c'est. Des dernières années, en fait, ça a descendu.
Ouais, c'est ça. Bien là, ça, c'est ce qu'on a payé. On a pris. On est dans un bear market, on va en parler tantôt. Mais là, ce que ça fait, c'est que les gens qui ont des actions, justement, dans leur compte.
Ouais.
Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'institution financière de me passer des actions de Apple. Parce que là, l'institution financière va aller dans ton compte à toi, puis toi, tu ne le sais pas, dans ton ordinateur, tu les vois encore. Ils sont encore là, mais ils me les passent à moi avec un taux d'intérêt. Fait que l'institution financière fait de l'argent avec ça. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre les actions de Apple. Disons que je vends 100 actions d'Apple. Là, dans mon compte à moi, ça va être remarqué que j'ai moins 100 actions. Toi, tu as 100 actions d'Apple dans ton compte. Tu le vois, c'est marqué 100 actions,
ouais.
Prix d'achat, prix présentement. Puis là, tu vois si tu fais du profit ou non.
Uh-huh.
Bon, moi, ce que je vois, là, c'est que je vois moins 100 actions parce que moi, j'ai emprunté 100 actions. Moi, il faut que j'aille racheter dans le marché 100 actions à quelqu'un pour les rembourser à l'institution financière.
OK.
Donc, ce que ça fait, c'est que si je les ai vendues, mettons, à 125, puis que je vais les racheter plus tard à 110, bien, c'est le concept de vente moins l'achat. Vendu 125,
mm-hmm.
acheté 110, 125 moins 110, je fais 15$ de profit. Mais au lieu d'avoir acheté 110, vendu 125, j'ai vendu en premier 125 pour aller racheter 100 actions à 110, les remettre à l'institution financière. Quand tu fermes ta transaction, tu reviens à zéro. Donc, quand tu achètes 100 actions, pour revenir à zéro, il faut que tu en vendes 100.
Ouais.
Quand tu en vends 100 en partant, il faut que tu n'achètes 100 pour fermer la transaction.
Je comprends très bien.
Fait que là, dans ce temps-là, c'est ce que là, on est capable de profiter de la descente d'un marché ou d'un titre. Donc, on peut faire un hedge avec ça qu'on appelle, c'est comme un genre d'assurance. C'est que si pendant un certain temps, le marché descend, bon, on est capable de se positionner en même, dans la même direction que le marché,
mm-hmm.
faire de l'argent pendant que le temps de marché ou le titre s'en va en descendant. Puis par la suite, s'il se replace puis se remet à remonter, ben là, on peut fermer notre transaction, autrement dit, short qu'on appelle, puis d'en prendre une position longue en achetant des titres dans le futur. Puis là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'avec les indicateurs de momentum puis les graphiques boursiers, on essaie de situer les places où on va avoir des changements de direction. Puis on est capable de le voir justement quand les prix arrêtent à certains niveaux puis revirent de bord.
OK. C'est un moment-là du cours, tu dois le répéter comme quelques fois.
Ça, c'est ça, habituellement, là, il y a à peu près il y a 5 à 10 % des gens qui trade, qui font de la vente à découvert.
Ouais.
Donc, ça prend des habiletés, c'est sûr. Mais un coup que, dans le fond, là, ça, là, ce qu'on l'explique de le faire, c'est qu'on le montre comment le faire, puis les gens le font dans un programme fictif.
En virtuel.
Puis là, un coup que tu l'as fait une couple de fois, là, tu comprends ton concept.
Ouais, c'est ça.
Tu payes sur Python. Dans le fond, c'est deux Python. Tu as achat-vente. Fait que tu payes sur vente en premier, puis rachat ensuite. Mais là, il faut que le titre descende pour que tu fasses de l'argent. S'il part par l'autre côté, bien là, tu vas payer plus cher pour le fermer ta position.
Mm-hmm.
Donc, là, tu vas être perdant sur la transaction. Le phénomène de vente à découvert, c'est sûr qu'il y a des caractéristiques spéciales, c'est que ton profit maximum, c'est quand le titre va descendre à zéro. Tu ne peux pas aller plus que ça. Ça veut dire que si tu fais une vente à découvert sur un titre à 10 $, ben ton maximum de profit, il ne peut pas aller plus bas que zéro. Mais la perte étant illimitée. Parce que là, si le titre il monte à 30, à 40, puis à 50, bien là, dans le fond, c'est que tu as investi, payé, tu as vendu 10, mais là, il faut que tu repayes 50 pour former ta transaction.
Oui, je comprends.
Donc, tu es 500% de l'autre bord.
OK.
C'est ça, il faut faire attention.
Puis les outils que tu utilises, toi, pour faire du day trading, là, donc, toi, c'est ton métier, là, à tous les jours, tu investis à la bourse, tu vends, t'achètes. Les outils que toi, tu utilises, c'est quoi?
Bien, c'est ça. Quand on veut faire de l'investissement, un compte de courtage qui est régulier, dans le fond, là,
mm-hmm.
Banque nationale, parce que les comptes de courtage ont souvent le site web qui est standard, là, un ticket de transaction normal. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie l'argent dans le compte de courtage. Puis là, ce que vous faites, c'est qu'on choisit, dans le fond, l'action qu'on veut acheter. On a un symbole boursier. Comme Apple, c'est AAPL à la bourse de Nasdaq. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va taper dans l'ordinateur. On va marquer AAPL, le symbole boursier, le nombre de parts qu'on veut l'acheter, quel prix. On paye sur le piton, mais on va l'acheter selon le marché où ce qui est rendu.
Ouais.
Ça, c'est, il n'y a pas de frais de transaction là-dedans. Si les gens payent des frais de transaction présentement en 2023, ben c'est parce que il y a d'autres institutions financières qui offrent ces transactions-là à zéro, autrement dit. Là. Avec la Banque nationale, nous autres, c'est un partenaire qu'on a avec nous. Là.
OK.
Puis ensuite, mais là, il y a des plateformes qui sont plus avancées, que là, on va être capable d'aller justement de voir les graphiques boursiers évoluer en temps réel, puis la vitesse des transactions. Comme je te parlais tantôt, là, remplir un ticket de transaction, bien, ça prend. Quand tu es habitué, ça va peut-être prendre 30 secondes, une minute. C'est pour le rentrer, là, tu sais ce que tu veux. Tu rentres ton mot de passe. Habituellement, on est déjà connecté, là, mais ça peut prendre une minute. Quelqu'un qui est moins habitué, là, 2-3 minutes. Mais là, il y a des plateformes où que tu cliques directement dans l'écran. Donc, tu vois là, les cotes boursières aller monter ou descendre. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique directement dans le graphique. Fait que là, ça rentre en une fraction de milliseconde. puis on est capable de faire justement des transactions rapides comme ça. Fait quand il y a des mouvements qui se passent rapidement, bien souvent, ce qu'on est capable de, on est capable de capitaliser justement sur ces petits mouvements-là. On va donner un exemple tantôt. J'ai acheté un titre, il était à 36 $. Puis, il y a eu un mouvement qui s'est passé pendant une certaine heure de la journée, puisqu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis, le titre a monté à 36,25. Bien, moi, ce que j'ai fait une transaction de 36,5 à 36,23. Bon, avec un nombre de parts, ça donnait un certain montant d'argent. J'ai rentré, je suis sorti. La transaction peut-être duré une minute et demie.
Il est de tabarouette.
Ça, c'est pas long. Des fois, il dure moins longtemps que ça parce qu'il y a des produits qui bougent plus vite aussi.
OK.
De la volatilité.
Il faut que tu sois assez alerte, là.
Bien, il faut que tu aies le programme, dans le fond. Là, ce qu'on fait, c'est que ce genre de plateforme de courtage-là, c'est qu'elle arrive, puis on la bâtit nous-mêmes.
Ouais.
Là, on met nos graphiques, on met nos listes de surveillance, puis on attache différents graphiques tout ensemble. Puis là, quand tu cliques sur ton symbole, le titre, ton graphique boursier va changer, ton ticket de transaction va se mettre en fonction, puis là, tout va être préparé, puis ça va vraiment rapidement.
OK, il n'y a pas de latence, là, c'est vraiment non, c'est instantané.
En temps direct, puis là, les routes électroniques aussi, là, c'est toutes des affaires un petit peu plus techniques en arrière, c'est que tu as plusieurs routes, là, tu peux prendre la ARCA, la NASDAQ, la NYCE, mm-hmm. Il y a plein de routes, puis là, selon l'ordre que tu mets, mais la plateforme boursière va t'envoyer dans la plus rapide, selon, des fois, tu vas payer un petit peu plus cher le frais, parce qu'il va te passer ta transaction plus rapidement. Puis ça, bien, c'est les gens qui veulent justement faire un salaire avec ça, puis tu as un travail. C'est comme le travail, mettons, un pompier va être pompier, mais comme moi, c'est ce que je fais, c'est que je regarde des mouvements boursiers, puis j'essaie de capitaliser sur ces mouvements-là. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une plateforme qui est un petit peu plus avancée, justement, pour faire ça. Puis on est capable de faire des choses que des gens en temps normal ne seront pas capables de faire avec un compte de courtage parce qu'on a besoin d'avoir cet outil-là et cette rapidité-là pour faire ce genre de transaction.
OK, mais Interactive Broker, ça fonctionne
c'est
bien?
Ça. C'est ça, c'est la plateforme avancée okay. que moi j'utilise.
Puis moi, Dysnat, as-tu des étudiants qui sont encore ouais. sur Dysnat ou ils ont tous changé de bord?
Ben, ça dépend de la
parce
stratégie.
Que Dysnat, il est simple en tabarouette.
La Banque nationale, c'est la même chose.
Ouais.
Dysnat, c'est avec Desjardins.
Ouais.
C'est que ça, c'est une plateforme qui est plus pour être passif un petit peu.
Exact.
Bon, si tu veux faire, mettons, comme la transaction que j'ai faite tantôt, le temps que tu vas embarquer, mettons, sur ton téléphone, puis
ouais.
le trade est passé.
Là. Moi, j'ai le temps de vieillir.
C'est ça. Des fois, là,
quand il m'avertit que c'est correct, j'ai le temps de vieillir.
Nous autres, on a un service aussi. C'est un nouveau service de l'année passée pour aider les gens là, qui veulent faire du day trading au début. Parce que
ouais.
C'est sûr que ça prend une expérience pour faire ça. Puis là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'expliquer aux gens comment la sélection de titres pour faire de l'investissement puis ta sélection de titres pour faire du trading actif. C'est mm-hmm. pas le même niveau de volatilité.
Pas du tout.
Comment être capable de regarder ces caractéristiques-là du type, de savoir ça, c'est plus risqué qu'un autre. Qu'est-ce qui a le plus de volatilité? Qu'est-ce qui a le plus de chances de bouger? C'est quoi qui bouge aujourd'hui? Puis où est-ce qu'on va voir ça? Puis là, ce que je fais, c'est qu'avec notre service Telegram, c'est que j'envoie les transactions que je fais au fur et à mesure live. Donc, admettons, quand je vais arriver, moi, je vais peser sur le piton. Si j'ai un client, admettons, un de nos élèves qui ont la plateforme Interactive Broker, puis quelqu'un qui va être Dysnat, ben, tu vas peut-être avoir quelques scènes de différence dans la rentrée à cause du fait que l'autre ben, va avoir rentré avant toi, surtout que ça décolle puis ça va marcher. Parce que là, tu sais, tu as les gens aux États-Unis qui rentrent dans le titre, les gens au Canada, puis là, tu as des institutions financières.
Ouais.
Là, ça commence. Puis là, la cote, là, quand ça part, là, tu le vois dans l'écran, là, c'est. T'sais, ça commence à zigzaguer, là, puis là, tu vois la chandelle partir, puis ça lève. Fait que ceux qui sont plus rapides, bien, éventuellement, ils ont un meilleur prix. Puis, c'est pour ça que c'est selon la stratégie.
Fait okay.
que quelqu'un, moi, ce qu'on suggère, c'est quelqu'un qui veut justement aller vers la production de revenus. Bien là, il va aller vers la plateforme comme Interactive Broker pour avoir plus de potentiel de rentrer ouais. dans les titres rapidement.
Tu sais, moi, actuellement, sans nommer des titres, Gaétan, là, je me tiens vraiment à carreau là, pour ce qui est de la vente de ce que j'ai acheté, de la vente de mes actions, parce que, tu sais, ça descend, mais c'est des actions qui sont fiables à mes yeux, puis qu'à un moment donné, ben quand ça va reprendre, cette action-là va dépasser l'état actuel des choses. Là, moi, j'étais en mode, je surveille les actions que je trouve intéressantes. Ça descend, puis quand je juge que c'est le bon temps d'embarquer, je vais embarquer. Ça se peut que ça descende encore.
Ouais.
Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir embarqué au bon moment quand je me dis, OK, là, quand ça va repartir tout ça, je vais finir par gagner quelque part.
Oui, ben c'est encore là, ça dépend des titres. C'est que ta sélection de titres à toi est basée sur l'investissement.
Ouais.
Donc, tu as des grosses chances de ressortir gagnant. Mais quelqu'un qui va acheter des titres, des fois, en faisant un investissement, on donne un exemple. Quelqu'un qui va acheter, mettons, un véhicule électrique en Chine. Bon, là, puis le véhicule électrique, la compagnie n'a pas encore de bénéfices.
Ouais, c'est ça.
Là, c'est ce qui fait mon. Faut comprendre c'est quoi qui fait bouger la bourse. Mm-hmm. Ce qui fait bouger la bourse, là, c'est les profits, c'est les earnings en anglais, ou l'attente des earnings. Ça veut dire que le marché va s'attendre à ce que ce titre-là va produire des bénéfices. Fait que si un titre n'est pas encore rentable, là, nous autres, on va considérer ça comme du trading. Parce que tu n'es pas dans une. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est que tu veux investir pour des bénéfices, mais il n'y en a pas encore dans le titre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur, mais il va en avoir. C'est pour ça que dans le cas de tes choix, ben là, c'est juste que là, le marché présentement est en train de réajuster comment qu'on est en train de payer pour tes bénéfices.
Mais le fait que je ne vende rien, que je panique pas, je pense que c'est. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire présentement?
Oui, parce que du côté de l'investissement, c'est normal qu'à certains endroits dans les évolutions boursières, que tu aies des hauts et des bas.
Parce que dans le fond, j'ai rien perdu. J'ai encore mes actions.
C'est ça. Ben, c'est la valeur, dans le fond, la valeur au livre. Tu sais, comme toi, là, t'as pas. Si tu vends, tu déclenches ton gain ou ta perte.
Exact.
Comme là, présentement, ta mentalité, c'est que tu es propriétaire de l'entreprise que tu vas acheter. C'est comme moi, mettons, Cobalt Investissement. Je ne vendrai pas mes actions parce que, disons, au mois de mai, puis là, durant l'été, on a un ralentissement du côté de la clientèle. C'est pas pensable. Là, j'ai une fluctuation boursière vers le bas.
Ouais.
À un moment donné, ben, là, quand on arrive, mettons, dans une autre période, ben, là, ça va mieux, mettons, cette période-là. Bon, ben là notre chiffre d'affaires monte un peu, mais mes actions restent les mêmes pareilles.
Ouais.
Je ne vends pas à cause de ça. Tandis que là, présentement, ben, les fluctuations boursières, ce que ça fait, c'est que ça nous donne la chance, justement, d'aller acquérir nos parts à certains prix, on est capable de calculer. Fait que dans le cas où, là, présentement, le marché est en baisse, la pression est à la baisse, quand que ça va revenir, je ne suis pas capable de dire la journée que ça va changer de côté. C'est très difficile d'essayer. Tout le monde essaie de jouer ce game-là, de dire, ben là, moi, je prédis ça, je prédis ci, je prédis ça. C'est qu'il y a des niveaux, à un certain moment donné, puis il y a des évaluations qu'on est capable de regarder en regardant le fondamental et en regardant le technique. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des décisions à partir de ces niveaux-là. On va donner un exemple. L'SP 500 descend, puis sera, mettons, à 3500. Bon, bien là, à 3500, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce niveau-là, qui est un niveau important. On va regarder ce niveau-là, voir si on a un retour des acheteurs dans le marché ou si, cette journée-là, il y a encore de la panique qui se passe puis qu'on n'est pas rendu nécessairement peut-être au creux. Puis ce qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, on voit le revirement se passer, puis il y a des indicateurs pour ça. C'est que là, tu vois le volume par rapport aux achats. Puis on est capable de voir quand on a notre revirement. Mais te dire, tu sais, là, c'est le bas, puis ça va être le 15 juin, ça, il n'y a personne qui est capable de faire ça.
La récession va avoir certainement un impact. T'entrevois ça comment?
Il y a beaucoup des titres déjà qui sont déjà pricés pour la récession. C'est parce que là, ce qui arrive, c'est que ce qu'on n'a pas connu depuis environ là, une quinzaine d'années, depuis 2000, c'est qu'on a la politique monétaire du gouvernement américain virée de bord. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on est habitué d'avoir les taux d'intérêt qui s'en allaient vers le bas. Là, on a les taux d'intérêt qui s'en vont vers le haut. Ce que ça fait, c'est que l'emprunt d'argent coûte plus cher. Les petites compagnies qui n'ont pas de rentabilité encore, qui investissent, qui ont besoin de ce capital-là, ça leur coûte plus cher. Puis on a aussi le fait que le gouvernement mettait de l'argent dans le marché beaucoup. Puis là, il est en train de le retirer. Donc, ce que ça fait, c'est que ça met de la pression. Ça met de la pression à la baisse, autrement dit, sur les marchés. Quand on n'avait pas, tu sais, comme les bons du trésor qu'on parle, là, les bonds du côté anglophone, c'est que quand les taux étaient à zéro, il n'y avait pas de compétition avec les titres parce que tu avais un produit qui ne te donnait rien. Puis là, les gens s'en allaient risquer sur les marchés boursiers, qui est un petit peu plus risqué, l'argent, parce qu'ils voulaient avoir du rendement. Là, quand tes bons du trésor commençaient à monter un petit peu, là, ça cause la compétition avec les titres du marché boursier. C'est pour ça que je te disais tantôt, c'est que là, qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour ces bénéfices-là? Bien là, le multiple commence à descendre un petit peu.
Ouais.
Fait que là, le marché qui était prêt à payer peut-être 30 de courts bénéfices avant, mais là, le marché n'est peut-être plus prêt à payer ce prix-là. Fait que là, ce que ça fait, ça met de la pression à la baisse.
OK.
Fait que là, dans le fond, c'est de réajuster, c'est de regarder, voir les entreprises qu'on regarde, c'est quoi leur ratio. Puis ensuite de ça, essayer de déterminer, voir si on pense qu'à partir de maintenant ou de la date qu'on veut investir, si on a une croissance de ces bénéfices-là ou non. Donc là, présentement, on devrait s'en aller peut-être en descendant pour les deux prochains trimestres à cause. Puis, tu sais, je ne fais pas de prédiction, là, mais c'est en général dans le marché, c'est qu'il va y avoir une récession d'earnings, ce que ça veut dire que les bénéfices des compagnies, au lieu de s'en aller en croissance, vont peut-être stabiliser ou s'en aller peut-être un petit peu en descente.
Puis, ça peut durer pendant combien de temps, à peu près?
Ça, c'est dur à évaluer.
Tu sais, je regardais pour les taux hypothécaires, là, je regardais ce que les spécialistes aux États-Unis mentionnaient, c'est que fin 2023, peut-être que ça va recommencer à descendre.
Oui, puis là, quand tu vois la Fed a parlé cette semaine, ouais. Elle disait qu'il n'y avait aucune intention de redescendre les taux en 2023, puis qu'il allait continuer à combattre l'inflation, puis s'il faut qu'il monte encore, on va le monter.
Okay. Et pourtant, tu as des gouvernements comme la Coalition Avenir Québec qui dit « Tiens, on va vous donner 600 piastres pour que vous puissiez... » dépenser pendant le temps des fêtes.
Fait que c'est parce que l'information, là, si tu veux trouver du négatif, tu vas le trouver.
Ouais.
Si tu veux trouver du positif, tu vas le trouver.
C'est sûr.
Puis moi, ce que on essaie de rester tout le temps, là, comme moi, j'écoute les deux côtés. Ouais. J'essaie de rester le plus possible neutre.
Mais tu comprends que c'est contre-productif. Les gouvernements disent qu'il y a trop d'argent, mais ils continuent d'en donner. Puis, soit dit en passant, je veux que le message soit clair. Là, je considère qu'il y a des gens qui avaient besoin de cet argent-là. Ouais, ouais. Mais pas, tu sais, on ne se le cachera pas, on ne l'a probablement pas eu. Ce chèque-là, moi, je ne l'ai pas eu. D'après moi, tu ne l'as pas eu, toi non plus. Si moi, je ne l'ai pas eu, tu ne l'as pas eu.
J'ai pas fait la demande.
Mais tu sais, si on me l'avait donné, c'était 600 via ça, je l'aurais investi quelque part. Là, je l'aurais pas dépensé en achat de produits. Je l'aurais mis à quelque part, je l'aurais figé là, puis merci, bonsoir.
Ben, tandis que cet argent-là qui s'est retrouvé justement dans le marché quand le gouvernement. Là, vu que le gouvernement est en train de le retirer,
ouais.
Ça coûte plus cher de l'emprunter.
Les gens se sont gâtés, ils ont acheté des cadeaux à leurs enfants. Ouais.
Parce que l'inflation, ce que c'est, là, c'est trop de dollars qui courent après moins de biens.
Exact.
Fait que tes biens, ils augmentent de valeur dans ce temps-là. C'est là, fait la demande tout le temps. C'est à peu près le même concept dans tout. Fait que, sur notre expertise, ce qu'on a, c'est qu'on essaie d'évaluer justement les bons titres, puis qu'on essaie de déterminer justement ce momentum-là d'acheteur-vendeur. Il est de quel côté? Puis là, c'est ce que j'attends, autrement dit. Parce que là, tu sais, la bourse, dans un sens, c'est que tu as des moments où ça monte.
Ouais.
C'est un moment de peut-être plus patienter pour aller. Avoir justement certains mouvements peut-être qui vont se passer vers le bas, puis là d'aller chercher justement ces entreprises-là à un meilleur coût. Mais, tu sais, comme si on regarde aujourd'hui, si on regarde, mettons, l'action de Couche-Tard puis de Métro, eux autres, ils n'ont pas descendu. Donc, les propriétaires des entreprises de Métro, ceux qui ont des actions de Métro, ben, ils continuent tranquillement, pas vite, à s'enrichir justement avec les bénéfices de ces compagnies-là.
Oui, Métro, ça va bien. Hein? Je regardais le salaire des gens chez Métro, là, ça en sont mis plein les poches.
Les actionnaires.
La marge de profit doit être pas pire aussi.
Mais c'est quand tu tombes avec une compagnie, comme on le regardait l'autre jour, sans nommer la compagnie, là, parce que c'est négatif un petit peu, mais il y avait comme 100 quelques millions de revenus.
Ouais.
Que le propriétaire en gagne 118. Là, dans le fond, quand on est actionnaire de cette compagnie-là, c'est on paye le salaire. T'sais, on allait payer le salaire de 118 millions d'une compagnie qui n'est pas profitable. Quand que le CEO de Apple il gagne moins que ça, là, c'est une petite compagnie au Canada qui, dans le fond, le CEO gagne plus cher que le CEO de la plus grosse compagnie sur la planète.
Ouais.
C'est des choses qui ne fonctionnent pas.
T'sais, moi, j'ai acheté le Vanguard, le fonds Vanguard là, que je t'avais déjà parlé, qui suit un peu le S&P 500. Puis, je regarde ça, puis il tient le fort.
Ouais. Ben là, c'est parce que ton S&P présente.
Moi, je l'avais acheté à 87. Là. Tu vois, je regarde un matin à 93.
C'est ça. C'est pas. Le multiple du S&P 500 en général présentement est à peu près 17.
Ouais.
Okay? Mais 17, là, 17-18, là, c'est pricé pour la perfection. Autrement dit, on serait dans un marché où on serait en croissance économique.
Mm-hmm.
Là. Fait que c'est pas ça qui se passe présentement. Fait que probablement qu'il y a justement, une contraction de ce multiple-là.
Ouais.
Puis que si, mettons, on retomberait dans les coins de 11-12, là, ça serait peut-être un aubaine dans ce temps-là. Mais encore une fois, il faut regarder, bon, on s'en va-tu vers de l'accélération économique ou de la décélération? Fait que là, présentement, vu qu'on s'en va vers de la décélération, ben, il y a des titres, justement, qui vont avoir de la pression à la baisse. Comme là, présentement, les micros, les semi-conducteurs sont un petit peu trop chers. Fait que là, il devrait avoir une pression à la baisse là-dessus. Fait que ça, c'est une des choses que je te parlais tantôt, c'est qu'il y a des produits financiers que tu peux travailler, que tu peux acheter pendant que le marché ou les secteurs descendent. Fait que le trade que je t'ai parlé tantôt, ben c'est ça, c'était un semi-conducteur, justement. Aujourd'hui, il y avait le semi-conducteur qui montait, mais dans les derniers temps, il y en a un petit cycle baissier. Puis là, tu peux travailler ça. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça protège des transactions. Je vais te donner un exemple. Tu achètes un semi-conducteur comme Nvidia. Puis pendant un certain nombre de temps, mettons, pendant une certaine période de temps.
Puis pourquoi on l'appelle semi-conducteur? Hein?
Ben, c'est le secteur des. Mettons, c'est en technologie. C'est un ouais. sous-secteur, c'est les semi-conducteurs, là, c'est les puces. Là, les,
OK.
Puis des fois, tu vas avoir, tu sais, dans la technologie, tu vas avoir du cloud. Après ça, tu vas avoir de la défense. Tu sais, comme là, c'est un secteur, ça, peut-être, probablement qu'en 2023, du côté de la défense, ça va continuer à fonctionner parce que là, il va bien. Là. Fait que c'est des secteurs. Fait que là,
t'as secteur de la porn sur la bourse, ça doit bien fonctionner aussi.
Je sais pas si c'est. Ouais, ça va être une industrie quand même.
Ça ne doit jamais avoir de sens.
Je sais pas si ça, durant la récession, ça l'augmente
le climat. Ben, c'est clair, le stress et tout ça.
Ou c'est toujours bien constant.
Non, on est là, nous autres, on le dit nos affaires. C'est clair que la porn va augmenter.
Je sais pas si on, là, ça, j'ai jamais vu le secteur de. Ben, je sais que l'action Playboy est sur la bourse.
Bon, ben, si tu gagnes de quoi, je charge
10%. Je pense que c'est pas en hausse. Là.
Je charge 10% de mon idée. Là.
C'est ça. Puis là, comme je te disais tantôt, c'est que, mettons qu'on achète on va acheter une action.
Ouais.
L'action, ça veut pas dire que quand on achète, la journée qu'on l'achète, la transaction part dans le positif. Là. Tu sais, c'est comme là présentement, moi, j'ai des titres, j'en ai dans le positif, j'en ai dans le négatif. C'est un choix à savoir si c'est un investissement. T'sais, quand c'est du trading, habituellement, là, moi, je m'en débarrasse. Comme hier, là, pas hier, mais ouais, hier, c'est qu'il y a eu une mauvaise nouvelle sur un des titres que je possédais.
Ouais.
Je regardais ça et je me disais, je vois-tu taponner pendant 6 mois de temps un titre en négatif qui va faire de la fluctuation ou je retire, je prends la perte, je retire l'argent, je vais
aller faire de quoi de mieux dans, que ça.
Ouais, puis je vais récupérer la perte sur quelques transactions.
OK.
Puis je vais avoir mon argent liquide. Fait que c'était pas quelque chose que je voulais peut-être garder à long terme.
Mm-hmm.
Fait que là, je l'ai vendu. Fait que là, il y a des pertes puis il y a des gains là-dessus, c'est normal. On essaie de sortir éventuellement plus souvent en gain. Mais ce qui arrive, c'est que, on va donner un exemple, si je garde une action, mettons Google présentement, Google est en descendant, Amazon est en descendant, puis... quelqu'un qui a des parts d'Amazon, peut utiliser un autre compte de courtage pour aller faire un short sur le même titre. Je ne sais pas si tu me suis. Là.
Oui.
C'est que là, tu fais de l'argent sur un trade, pas un investissement, sur un trade en descendant, pendant que ta position est descend dans un côté. Fait que tu le gardes dans un compte, tu le trades dans l'autre.
Ou
tu peux faire une transaction sur un autre titre ou un ouais. produit financier qui va faire en sorte que tu vas protéger ta position. Donc, tu perds une place, tu gagnes à l'autre. Tu arrives, mettons, even, on va dire t'arrives even, mais tu as encore tes actions. Puis là, à un moment donné, quand tu décides que la valorisation de cette action-là est meilleure, tu peux faire un autre achat là-dedans. Puis accumuler des parts de l'entreprise au fur et à mesure. Les fluctuations boursières, c'est de la normalité, il va toujours en avoir. Il va en avoir des. Il y a des titres qui bougent beaucoup plus que d'autres, mais ça fait partie de. C'est pour ça qu'il faut comprendre la caractéristique du titre qu'on transige.
Gaëtan, on va faire une courte pause, si tu le veux bien, mais après la pause, je veux qu'on parle, toi et moi, des cryptos, la saga aussi FTX, ouais. Là, avec l'individu qui là, il va faire probablement de la prison les prochaines années.
Trop chance.
D'avoir vraiment une couple qui veulent sa tête. C'est du bris de confiance envers ces produits-là qui, pour des gens de l'extérieur, je trouvais que ça avait de l'air intéressant. T'sais, les gens me parlaient de la crypto, les fameux bitcoins, ouais. Tout ça. On a eu des multimillionnaires du Bitcoin parce qu'ils ont investi, sont embarqués dedans dans le bon temps. Aujourd'hui, ça va plus ou moins bien, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Gaëtan Royer de Cobalt Investissement. Pour les gens qui veulent te retrouver sur les internets, font quoi?
Nous, on a notre site web www.cobaltinvestissement.com. On a aussi notre page Facebook. Qu'on vous pouvez retrouver. Là. C'est un seul symbole avec notre logo.
Mm-hmm.
Puis on a un service aussi Telegram, ceux qui ont l'application Telegram. Là, on a un Telegram public où on envoie certaines informations boursières là, de façon quotidienne, certaines transactions qu'on fait.
Courte pause, restez là.
Marceau, le soir.
Depuis plus de 60 ans, Raquette et Artisanat Gros-Louis vous aident à rester bien au chaud. Offrez-vous une paire de mitaines de cuir ou de bottes en loup marin. Venez voir nos manteaux et chapeaux de fourrure, mocassins d'intérieur et bien sûr, nos raquettes. 30 Boulevard Bastien à Wendake. Nouvelle année, nouveaux objectifs. Planète Nutrition a tout ce qu'il faut pour te donner l'énergie d'avoir de bons résultats. En janvier, économise 20% sur notre gamme maison. Une douzaine de produits de qualité pour t'accompagner au quotidien. Planète Nutrition, Le Bourgneuf, Sainte-Foy, Saint-Georges et au planètenutrition.ca.
Soyez prêts pour l'hiver grâce à Sale. Profitez des soldes de nouvelle année et obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection de manteaux, bottes et équipements de sport d'hiver. Économisez sur des milliers d'articles. Sale, la plus grande destination plein air. Une entreprise 100% québécoise. Podcast.
Vous avez manqué la deuxième saison de Gravel dans le retour, le podcast. Elle est disponible partout, sur toutes les plateformes.
Jérémy, Gabriel.
Le grand regret que j'ai par rapport à ça, c'est que je n'étais pas assez préparé.
Est-ce qu'on peut être préparé à ce genre de choses-là? Non. En plus d'être très jeune, il y avait des choses qui étaient nouvelles pour toi à entendre.
Il y avait beaucoup de gens qui ne mettaient pas ça en contexte.
Ouais. Alors, ben, on a été fucking méchants avec toi.
Mais non. Mais...
Quand je dis on, je m'inclus.
Gravel dans le retour, le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et le BLVD.fm. Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
Alors que les prix augmentent partout, Normandin a décidé de faire le contraire. 5 populaires repas à 9,99 $ offerts dès 16h, dont la demi-lasagne, la salade thaï et le combo pizza. Valide en salle à manger et wine bar jusqu'au 12 février. Détails au restaurantnormandin.com.
La Vape Shop, pionnière dans le domaine du vapotage depuis 2012. Pour tous vos besoins en vapotage, visitez la Vape Shop du 603 rue Saint-Jean, du 1485 chemin Sainte-Foy ou du 1800 industriel à Val-Bélair. Joignez-vous à notre équipe. Envoyez votre CV à carrière@commerciallavapeshop.ca. Joyeuses fêtes!
Cet hiver, je glisse à Tewksbury. Les glissades les plus hautes, les plus longues et accessibles à toute la famille. Les glissades Tewksbury.com. Pour quelques jours seulement, achetez en ligne et profitez d'un rabais. Les glissades Tewksbury.com. Pour toute la famille, les glissades Tewksbury.com.
Boulevard 102.2. La radio rock de Québec.
Boulevard.
Le rock, ça nous coule dans les veines. Et on partage cette passion-là avec vous. Mettez ça sur le poste, assoyez-vous confortablement et profitez du meilleur rock à Québec. Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bon, ce soir, on est avec Gaétan Royer de Cobalt Investissement. Gaétan, je pense que jusqu'à maintenant, ça va bien. Là, on parle d'un individu qui l'a pas facile, mais je pense qu'il le mérite, là, un individu qui semble avoir floué certaines personnes. Le gars d'FTX, la saga, es-tu capable de m'expliquer, mais pour le commun des mortels, là, pour les gens qui sont pas des experts comme toi, c'est quoi cette saga-là? Pourquoi le gars est en cours présentement? Pourquoi le gars dit qu'il ne reste plus une scène alors qu'il y a plein de gens qui ont confié son argent? Cet argent-là est passé où? Ça avait quoi comme but?
C'est ça qu'il essaie de déterminer présentement avec le procès. C'est que ben c'est un exemple typique de fraude, dans le fond. C'est
ouais.
Quand on envoie de l'argent quelque part, c'est habituellement, il faut que les personnes ou ce que tu achètes, dans le fond, il faut que ça soit... comme un peu plus réglementé, pour mm-hmm. que tu saches vraiment que ton argent, comme je disais tantôt, tu possèdes. Je vais donner un exemple. Une banque, présentement, là, les banques canadiennes, sont capables de passer jusqu'à 90 % de l'argent qu'ils ont pour. Si tout le monde arrive à la Banque nationale demain matin et veut retirer leurs argent,
ça marche plus.
Il n'y en aura pas assez de liquidité. Donc, tu sais, juste faites l'essai là, d'aller chercher 10 000 $ au guichet d'une journée, mais vous allez vous faire dire qu'il faut que tu la commandes. Parce qu'ils ne l'ont pas sur place. Bon. Là, ce qui est arrivé, c'est que, ben, tu sais, moi, c'est mon expertise, la crypto-monnaie, il y a tellement de choses là-dedans, puis c'est pas mon expertise première parce que c'est vraiment un domaine complexe. J'ai des élèves qui sont plus experts que moi là-dedans, là, mais c'est que là, il y avait justement, là, ils ont sorti comme une genre de monnaie, là, leur monnaie eux autres. Là, avec ça, tu pouvais acheter tes autres cryptos. Mais là, ce qui arrivait, c'est que l'argent, dans le fond, que les gens investissaient dans cette plateforme-là, eux autres donnent un relevé, là, un peu comme dans la saga Norbourg à un moment donné. C'est que tu reçois un relevé. Là, tu vois tes actions que tu as, mais c'est un bout de papier. Là. L'argent, es-tu vraiment dans ces actions-là? Ce qui s'est passé avec ça, c'est que ben Sam, lui, il a pris de cet argent-là. Pis,
Sam Bankman-Fried.
Fried. Ouais, il y a un beau nom, hein? La banque, elle a cuit.
Ben, écoute, moi, on me le présentait, il y a de ça quelques mois, là, on me le présentait comme l'imminence là, de la crypto-monnaie. On nous disait que c'était un génie, il investissait partout.
Je pense qu'il y a même quelqu'un qui a une phrase qui s'est dit à un moment donné qu'il allait acheter JP Morgan à un moment donné.
Ouais, c'est ça.
Une des plus grosses banques aux États-Unis.
Je trouvais qu'il y avait une drôle de tête, là, mais il ne faut pas juger à la tête de l'individu. Mais finalement, ce qu'on apprend, c'est que le gars aurait peut-être fait des affaires qui ne sont pas correctes.
C'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il en pensait tout le temps que ça... Quand tu penses toujours que ton asset va monter, maintenant, mais, c'est... Okay. Quand tu fais, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que l'argent des investisseurs a été pris pour faire des investissements avec des effets de levier sur d'autres choses, que ça n'a pas fonctionné.
Okay.
Puis là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a une lumière rouge qui arrive. Il y a quelqu'un qui essaie de retirer. Mettons, quelqu'un qui essaie de retirer l'argent, puis là, il ne peut pas. Là, il se pose des questions. Puis là, il y en a un autre qui dit, mais moi, je veux retirer aussi. Puis là, ça arrive. Puis là, il y a l'argent pas là. Puis là, à un moment donné, ben, c'est un effet domino.
Mais moi, c'est surtout la difficulté de retrouver l'argent. Tu sais. Oui, il a perdu l'argent, mais cet argent-là, est où? Est certainement quelque part. Tu sais. Je pense à Lacroix qui disait, quand il y a un journaliste qui écœurait Lacroix là, tu sais, dans la saga Norbeau.
Il était super.
Comment?
Elle était séparée à Montréal.
Elle était séparée, oui. Tu sais, elle est où l'argent? Puis là, Lacroix, Vincent Lacroix disait, ben, l'argent est autour de vous, tu sais. Mais attends un peu, là.
Oui, il joue au club, non, mais c'est parce qu'ils ont fait des achats. C'est parce que ce qui arrive, c'est comme, tu sais, l'argent, il n'y a pas nécessairement de perte d'argent, c'est de la redistribution.
Mm-hmm.
Quelqu'un achat-vente, il y a quelqu'un qui. À un moment donné, ce qui arrive, c'est comme quand ils disent à la bourse présentement, du niveau du marché, ce qui est allé présentement, il y a eu, mettons, tant de pertes, mais l'argent, elle s'est pas perdue.
Non.
On l'a pas brûlé, là, à changer de poche. Dans le fond, c'est un transfert de richesse. Fait que là, eux autres, ben, ils essaient de voir où est-ce que lui, il a garoché son argent. T'sais, c'est qui l'a? Elle l'a mis où? Il l'a-tu blanchi quelque part d'autre? Il a acheté quoi avec ça?
Parce que le merveilleux monde des crypto-monnaies, là, une chatte en perdrait ses petits, là. T'sais, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, t'as peu, là, comment je fais? Juste pour avoir ton compte, puis ton mot de passe. Ton mot de passe, c'est compliqué, tout est encrypté.
C'est compliqué, mais c'est finalement plus simple quand un coup tu connais ça. Mais sauf que c'est pas commun. Fait que ça va être difficile. Tu sais, les gens, la plus vieille génération,
ouais,
sont pas habiles nécessairement avec comme l'ordinateur autant que les jeunes présentement.
Je comprends, mais c'est régi par qui, ça? Merveilleux monde du Bitcoin.
Ça l'est, là, le problème. C'est que c'est une industrie qui n'est pas réglementée. Puis que là, ben, y a eu un effet justement d'engouement là-dedans. Et là, présentement, les gens qui avaient investi là-dedans, ils l'ont fait. Là, les institutions financières, parce qu'habituellement, c'est de l'argent institutionnel, c'est là, c'est elle qui a le plus de power, parce qu'il y en a plus. Là. C'est les gens qui envoient l'argent aux institutions financières, puis c'est les institutions financières qui choisissent les investissements.
Mm-hmm.
Là, les institutions financières n'investissent pas nécessairement dans la crypto-monnaie présentement. Donc, si tu n'as pas ce power-là pour faire monter ton d'un investissement constant tout le temps.
Ouais.
Parce qu'il faut pas oublier que la crypto-monnaie, comme je te disais tantôt, ça ne produit pas de revenus. Là. Court-bénéfice, il n'y en a pas là-dessus. C'est basé sur la confiance que moi et toi, on a là-dedans. Comme l'or. T'sais, le prix vaut selon ce qu'on le marché est prêt à payer. Ouais. Quand il y a une perte de confiance, comme là, présentement...
Mais Gaétan, l'or, tu l'as, tu peux l'avoir physiquement là, dans ton coffre-fort. Là, ouais. C'est palpable. Là, le Bitcoin, là, c'est des ordinateurs, ouais. Puis t'envoies ça comme sur Internet, puis t'espères qu'à un moment donné, ça va fructifier, puis tu vas retirer dans le bon temps. Ouais. Là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un nombre déterminé de bitcoins, ouais. Il n'y en aura jamais plus. Il y a des baleines qui sont propriétaires de milliers et de milliers de bitcoins. Ces baleines-là créent un effet de rareté du bitcoin. Fait que quand tu veux mettre l'argent sur une fraction de bitcoin, ben, elle coûte plus cher. Et quand la baleine dit, ben moi, je passe au cash présentement, je décide de vendre, ben là, tout s'effondre.
Ça peut faire ça, c'est ça. C'est parce que ce qui est intéressant avec ce qui se passe présentement, de voir le Bitcoin, ce qui n'a pas descendu plus que ça,
ouais.
C'est positif.
Ah ouais?
Parce que là, ce qui se passe, c'est dans le fond, c'est les plateformes pour trader ces monnaies-là qui sont en cause. Là. Parce que FTX, dans le fond, c'était comme une plateforme pour trader ces monnaies-là.
Ouais.
Fait que là, quand tu envoies ton argent, mettons Coinbase ou Qcoins ou une plateforme comme ça, c'est la confiance que tu as qu'eux autres vont respecter. Autrement dit, tu achètes des bitcoins sur une plateforme comme ça. Elle, en arrière, est supposée d'avoir ces bitcoins-là en bac.
C'est ça.
Tu achètes tes actions chez Interactive Brokers, ils sont supposés d'avoir tes actions dans le compte là-bas.
Oui.
Fait que si tu arrives pour les retirer, ils les ont pas, comme je te disais tantôt, la vente à découvert.
Ça marche pas.
Ils ont passé. Ben, habituellement, quand ils ont passé, puis toi, tu les veux, ben, ils sont obligés de te redonner.
T'as-tu l'impression que la confiance va être un peu minée là, avec la saga FTX?
Oui, pour quand même un certain temps. Fait que je dirais présentement, ben. Il y a plusieurs opinions parce que c'est tradable, ça. C'est une industrie qu'il y a de la volatilité là-dedans. Il y a beaucoup d'algorithmes là-dedans, de robots qui trade automatique. Et je dirais, par exemple, la majorité des crypto-monnaies, c'est non investissable dans un sens que tu peux pas acheter ça et te parker là-dedans en pensant que ça va gagner de la valeur plus tard. Là. Pour le moment. Il va y avoir un nettoyage qui va se faire. Éventuellement, les institutions financières qui sont intéressées à cette industrie-là, sont en train d'essayer d'implémenter, de demander au gouvernement qu'il y ait une réglementation là-dedans pour éviter justement ces fraudes-là. Parce que c'est une belle technologie, là, tu sais, comme le BTC. Là,
exact. C'est le Bitcoin.
C'est une belle technologie.
C'est le processus de validation que je trouve franchement intéressant, ouais. Qui est extrêmement sécuritaire, qui pourrait s'adapter à plusieurs choses. Mais le Bitcoin, comme c'est régi par personne, comme s'il y a déjà des gens, des gros investisseurs qu'on appelle les baleines, qui sont déjà en place, moi, je ne sais pas sur quoi me baser pour leur faire confiance à ces gens-là.
C'est difficile là, d'avoir une confiance présentement exact. À cause de ce qui vient de se passer. Comme quand tu parles de les baleines, il y a des gens qui comprennent, mettons, qui ne connaissent pas c'est quoi. C'est mettons, une personne qui a beaucoup d'argent, qui n'ont acquis beaucoup.
Ouais.
Là, les bitcoins, il y en a 21 millions, mettons, en circulation totale quand ça va être terminé. Là, il y en a peut-être 19 quelques millions. Puis il y en a 2,5, je pense, millions qui n'ont pas été transgés depuis 10 ans.
Non, je pense qu'on peut présumer qu'ils sont perdus.
Ils sont perdus, les codes, là, les gens,
il y a des gens qui ont perdu les codes.
Passe. Puis là, il y a des institutions, pas des institutions, mais mettons comme les baleines, là, une personne comme MicroStrategy qui en a accumulé vraiment beaucoup. Là.
Ouais.
Je pense que c'est lui qui en a le plus. Exactement le chiffre, je ne le sais pas, mais lui, il les accumule, dans le fond, puis il les garde. Fait que là, ce que ça fait, c'est que si moi, je veux en avoir, mais lui, il en a déjà pas mal, mais il ne bouge pas. Fait que là, elle est plus rare encore, vu qu'il est fait limité. Si vous êtes intéressé à une crypto-monnaie qui a un pouvoir illimité d'être produit puis d'être mis sur le marché, il y a des grosses chances qu'à un certain moment donné, ces cryptos-là, ça ne vaut rien parce que tu peux en produire comme tu veux. Un peu comme le dollar canadien. Le dollar canadien, le gouvernement peut en produire comme il veut. Là. Puis qu'à un certain moment donné, bien, ce que ça vaut, c'est qu'on a une confiance au gouvernement, mais s'ils décident d'emprunter, bien, ils vont tuer notre pouvoir d'achat. Notre confiance est dans le gouvernement. Là.
Gaëtan Royer de Cobalt Investissement, moi, à un moment donné, j'ai écouté la radio, j'étais dans mon char, puis là, tu donnais une chronique là, dans une station de radio où je travaillais à l'époque, puis là, je me suis dit, ouais, ça donne bien de l'air intéressant, l'investissement en bas. J'ai commencé à m'intéresser à ça de mon côté. J'ai fait quelques lectures. Après ça, on s'est jasé. Je t'ai invité à l'émission. Tu m'as conseillé quelques lectures à faire, certains livres. J'ai trouvé ça franchement intéressant. J'ai réussi à faire une partie du cours que tu offrais à distance. J'ai adoré. J'ai parfait mes connaissances avec le cours chez Cobalt Investissement. Là, je regarde 2023. Des auditeurs qui ont probablement le même processus dans ma tête. Ah, ben, ça m'a toujours intéressé, l'investissement en bourse. Mais tu sais, 2023, ça va ressembler à quoi? Il y a beaucoup d'incertitudes. On parlait tantôt de récession. C'est quoi qui va performer, selon toi, selon Gaëtan Royer, en 2023 pour la bourse, exemple? Est-ce que, je ne sais pas, les nouvelles technologies, les découvertes en santé, ces affaires-là, ça pourrait peut-être bien performer?
Bien, c'est difficile de se prononcer parce que moi, j'essaie de ne pas jouer aux prophètes, là. Quand que je dis souvent aux gens, là, je vais vous expliquer ce qui va se passer en 2020.
Quelque chose de stable, moi, je pense que je peux m'avancer, là, le papier de toilette.
Le papier de toilette, ça, ça c'était une chose, c'est quelque chose qu'on manque pas au Québec, là, ça va être cascade.
Ouais.
Mais
quand il y a eu la pandémie, tu te souviens, hein? C'était un phénomène particulier, là, tout le monde se présentait, pas moi.
C'est
là. Un
phénomène humain, c'est là qu'on voit
mais non, mais
la
je veux
psychologie
dire.
Humaine. Okay. Québec, là, au Québec, s'il y a quelque chose qu'on manquera pas, c'est de l'eau et du papier.
Oui, exact. Mais tu sais, je sais pas, moi, il y a une pandémie, on a peur que tout ferme. Moi, tu sais, mettons que je suis stressé, ce que je suis pas, mettons que je suis angoissé, je me serais lancé sur le canage.
Oui, de l'eau, ben, du manger.
Tu sais, de l'eau, du canage.
Le papier toilette, il y a toujours une façon autre, tu sais, une débarbouillette mouillée, ça peut toujours faire, on peut toujours s'en sortir.
C'est ça.
Le phénomène humain, quand on dit des fois, là, que quand il arrive de quoi. Des fois, les gens, c'est comme ça part d'un côté et ça ne réfléchit pas.
Ouais.
C'est la même affaire avec les fluctuations boursières. C'est quand il y a une panique, des fois, le monde va vendre des affaires que, tu sais, comme Métro, tu es propriétaire de Métro. Hein. Le gars chez Métro ne vend pas son épicerie parce que, du coup, il y a un ralentissement sur 3 mois. Là.
Exact.
Il y a des gens qui vendent leurs actions. Mais... Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Moi, il y a une chose qui est sûre qui va arriver en 2023, c'est qu'il va y avoir de la fluctuation boursière.
Ouais.
Puis là, je ne peux pas te dire, mettons, au mois de février, au mois de mars, c'est quoi qui va être hot. Sauf que les événements arrivent au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y en a qui disent tout le temps, moi, je vous avais prédit puis j'avais raison. Là. Ça me fait rire parce que les gens qui ont de l'expérience, ils savent. Tu peux pas prédire quelque chose qui s'en vient qu'on ne sait pas qui s'en vient.
Ouais.
À moins que tu aies été une révélation d'Astradamus, là, mais je peux pas vous dire si ça va être la récession va être pire ou non parce qu'à un certain moment donné, c'est l'agissement de ce qu'on. Au fur et à mesure qu'on s'en va, qu'on réagit. Mais il y a des choses qui tiennent plus la route. Comme là, présentement, les technologies ont de la misère. À cause du fait que c'est le coût d'argent il est plus élevé. Les titres étaient trop chers, là, sont en rebalancement, autrement dit. Puis il y en a qui vont disparaître. Tu sais, la technologie, ça bouge vite.
Ouais.
Mais il y a quelque chose, par exemple, que qui est plus stable. On va donner un exemple, les barres de chocolat. Habituellement, quelqu'un qui consomme, tu sais, ça va rester stable. Fait que la compagnie Hershey a plus de chances de rester stable. Ouais. Trop plus de chances de rester stable.
Pharmacie.
La santé, ben, habituellement, les gens ne veulent pas mourir. Fait que, la plupart du temps. Fait que, là, ce qu'on fait, c'est que les hôpitaux et ces choses-là. Il y a une belle compagnie aux États-Unis, là, United Health, qui c'est un titre qui est encore en tendance haussière.
Ouais.
Fait qu'il y a des secteurs comme ça. Comme là, la défense, présentement, c'est quelque chose qui est en momentum aussi.
Ah ouais.
Avec ce qui se passe. Là,
Russie-Ukraine.
La cybersécurité, puis c'est ça, là, l'aérospatiale.
Ah ouais.
Ensuite, l'énergie qui devrait... Là, il faut faire attention parce qu'il y a une grosse... Tu sais, l'énergie en 2022, t'achetais n'importe quoi, ça montait là, dans le pétrole puis dans le gaz naturel. Là, le gaz naturel a viré de base, des choses qui sont assez volatiles. Là, il faut plus peut-être sélectionner ceux qui vont exécuter un petit peu mieux. Il y a certaines compagnies encore de pétrole qui vont être profitables à cause que le prix est élevé. C'est
une raison d'incertitude.
Si on descend, c'est sûr que si le prix du pétrole descend en bas de 65, puis on descend, là c'est moins avantageux.
Mais tu vois, la guerre, sans être prophète, là, la guerre, ce qui se passe actuellement en Russie-Ukraine, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va retrouver Vladimir Poutine tomber dans le bas de ses propres marches avec le cou cassé, puis ils vont dire « c'est un accident ». On regarde les oligarques qui se sont toutes faites retirer leurs avoirs.
Il y en a un qui se lève et qui te remplace l'autre.
Oui, c'est ça. Mais
t'as un Churchill qui arrive.
Ils se sont fait retirer leurs avoirs, se sont fait confisquer leur compte en banque Canada, puis dans bien d'autres, d'autres pays. T'sais, à un moment donné, ils vont dire à Poutine, là, c'est parce que nous autres.
Sur le long terme, la dictature, ça n'a jamais fonctionné. C'est normal.
Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va tomber en bas d'une galerie parce que là, il y en a qui ont commencé à le critiquer.
Ça fait deux fois qu'il l'essaye. Ils ont essayé trois marches, cinq marches.
Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui l'ont critiqué, puis il y en a qui ont eu des. Ils ont tombé de leur galerie, des chutes dans les escaliers. Les autres sont très forts là-dessus.
Souvent, quand Poutine, ben, dans le temps, là, ça c'est des ententes. On a entendu parler que quand il y en avait un qui le contredisait, souvent, il y avait un accident.
Ouais, c'est ça.
Il joue au hockey, puis il reçoit une rondelle.